Chapitre 13. Quelques exemples de la sottise causée par l'ignorance des femmes, avec des réflexions sur le perfectionnement moral que l'on peut naturellement se promettre d'une révolution dans les mœurs des femmes. Il y a beaucoup de sottises qui, à certains égards, sont particulières aux femmes. Faute contre la raison, d'action aussi bien que d'omission. Mais comme toutes prennent leur source dans l'ignorance ou dans les préjugés, je me contenterai d'indiquer celles qui semblent surtout faire tort à leur caractère moral. Et en les remarquant, je m'attacherai spécialement à prouver que la faiblesse de l'esprit et du corps, que par différents motifs les hommes se sont efforcés de perpétuer, les empêche de remplir les devoirs particuliers à leur sexe. Car quand la faiblesse du corps ne permet pas aux femmes d'allaiter leurs enfants, et que la faiblesse de l'esprit est cause qu'ils gâtent leur caractère, je le demande, la femme est-elle dans son état naturel? Section première. Un exemple frappant de faiblesse qui naît de l'ignorance appelle d'abord l'attention et mérite la plus sévère censure. Il y a dans cette capitale une foule de sangsues obscures dont la subsistance infâme est due à l'art avec lequel ils en imposent à la crédulité des femmes sous prétexte de tirer leur horoscope pour me servir de leur mot technique. Et beaucoup de femmes qui, fières de leur rang et de leur fortune, laissent tomber des regards insultants sur le commun des hommes, font voir par cette crédulité que toute distinction est arbitraire et qu'elles n'ont pas assez cultivé leur esprit pour s'élever au-dessus des préjugés populaires. Ces femmes, n'ayant pas été accoutumées à regarder la connaissance de leurs devoirs comme une acquisition nécessaire, ni à charmer la vie dans le présent par la pratique délicieuse de ces mêmes devoirs, sont très inquiètes de l'avenir et désirent pénétrer dans ces obscurités pour apprendre ce qu'elles ont à attendre pour rendre la vie intéressante et pour remplir le vide de l'ignorance. Qu'il me soit permis de faire de sérieux reproches aux femmes qui courent après ces oiseuses découvertes. Car des mères de famille, des maîtresses de maison, n'ont pas honte de faire conduire leur voiture jusqu'à la porte du fripon qui se joue de leur crédulité. Et si quelqu'une d'elles vient à lire cet ouvrage, je les somme de répondre dans leur cœur aux questions suivantes, sans oublier qu'elles sont en présence de Dieu. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il est puissant, sage et bon? Croyez-vous que tout est créé par lui et que tous les êtres sont dans sa dépendance? Croyez-vous à sa sagesse si remarquable dans ses ouvrages et dans la structure de votre corps? Et êtes-vous persuadé que tout ce qui tombe sous vos sens est ordonné avec la même harmonie pour remplir ses desseins? Reconnaissez-vous que le pouvoir de pénétrer l'avenir et de voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient est un attribut du Créateur? Et quand il daignerait révéler quelques-uns des événements cachés dans les ombres de l'avenir, qui choisirait-il pour lui découvrir ce mystère par une immédiate inspiration? L'opinion de tous les âges répondra à cette question, de respectables vieillards, des gens distingués par une piété éminente. Les anciens oracles étaient rendus par des prêtres consacrés au service du Dieu qui était supposé les inspirer. La pompe éclatante et mondaine qui environnait ces imposteurs, et les hommages qui leur étaient rendus par d'habiles politiques qui savaient se prévaloir de cette arme utile pour courber la tête du fort sous la domination du rusé, jetaient un voile mystérieux et sacré sur leurs mensonges et sur leurs abominations. Frappée de cette ostentation religieuse, une dame grecque pouvait s'excuser si elle s'adressait à l'oracle lorsqu'elle avait quelque intérêt à percer l'avenir ou à prévoir les suites de quelque événement incertain. Et ces consultations, quoique contraires à la raison, pouvaient ne pas être regardées comme une impiété. Mais ceux qui font profession du christianisme peuvent-ils éviter cette imputation? Un chrétien peut-il supposer que les favoris du Très-Haut, ceux qu'il a comblés de ses faveurs, seraient obligés de se cacher dans les ténèbres et mettre en usage les ruses les moins honnêtes pour attraper à de sottes femmes un argent, après lequel le pauvre crie en vain? Ne dites point que de pareilles questions sont une insulte au sens commun, car c'est votre conduite, femmes insensées, qui jette de l'odieux sur votre sexe. Et ces réflexions devraient vous faire rougir de votre indifférence et de votre ridicule dévotion. Car je ne suppose pas que vous ayez mis de côté tout sentiment de religion, quelle que soit la vôtre, quand vous entrez dans ces mystérieux taudis. Mais restons-en là. Puisque j'ai supposé que je parlais à des ignorantes, car cette qualification vous convient dans toute la force du terme. Il serait absurde de s'engager avec vous dans une longue discussion sur l'éclatante sottise de vouloir connaître ce que la sagesse suprême a jugé à propos de tenir caché. Probablement, vous ne m'entendriez pas si j'entreprenais de vous prouver combien cette funeste connaissance serait incompatible avec le grand but de la vie, celui de rendre les humains sages et vertueux, et que si elle était accordée par Dieu, elle troublerait l'ordre établi dans la société. Dans le cas contraire, pouvez-vous vous flatter qu'on vous dise la vérité? Peut-on prédire des événements qui n'ont point encore pris de réalité et qui, par conséquent, ne peuvent être soumis à l'inspection des mortels? Et ces événements peuvent-ils être prévus par un homme vicieux qui satisfait ses fantaisies en faisant des dupes? Peut-être croyez-vous dévotement au diable, et vous imaginez-vous, pour éluder la question, qu'il peut venir au secours de ses disciples. Mais si vous respectez en effet le pouvoir d'un pareil être, d'un ennemi de la vertu et de Dieu, pouvez-vous aller à l'église après lui avoir eu de telles obligations? De ces ruses aux impostures maintenant à la mode et pratiquées par toute la tourbe des magnétiseurs, la transition est très naturelle. Par rapport à eux, il est à propos de faire aux femmes quelques questions. Connaissez-vous quelque chose à la structure du corps humain? Si vous n'y connaissez rien, vous devez savoir au moins ce que c'est un enfant. C'est que quand l'admirable économie de cette structure a été troublée par l'intempérance ou l'indolence, je ne parle pas ici des maladies aiguës, mais des maladies lentes, on ne peut lui rendre la santé que par degrés. Et si les principes de vie n'ont pas été sensiblement attaqués, le régime qui n'est que la tempérance sous un autre nom, l'air, l'exercice et un petit nombre de remèdes prescrits par des personnes de l'art sont les seuls moyens humains jusqu'ici découverts de recouvrer l'inestimable bien de la santé qui puisse soutenir l'examen. Croyez-vous que ces magnétiseurs qui, par des tours de passe-passe, prétendent faire des miracles sont délégués par Dieu ou assisté par le grand aplanisseur de toutes les difficultés, le diable? Quand ils mettent en fuite, comme on le dit, les maladies qui ont bravé tout l'art de la médecine, travaillent-ils d'accord avec la lumière de la raison, ou opèrent-ils ces cures merveilleuses par des secours naturels? Par notre commerce avec le monde des esprits, répondra un adepte. Quelques anciens parlent des démons familiers qui les garantissaient du danger en les avertissant avec bonté. De quelle manière? C'est ce qu'on ne peut conjecturer, lorsque le danger était proche, qu'il leur suggérait ce qu'ils devaient entreprendre. Encore, ces hommes qui se piquaient d'avoir ce privilège hors de l'ordre de la nature prétendaient que c'était la récompense ou la suite d'une tempérance ou d'une piété supérieure. Mais ceux qui opèrent les merveilles actuelles ne sont pas distingués de leurs compagnons par une tempérance ou une sainteté éminente. Ils ne guérissent pas pour l'amour de Dieu, mais pour l'amour de l'argent. Ce sont des prêtres d'une espèce de quakerisme, quoiqu'il soit vrai de dire qu'ils n'ont pas de ressources de vendre des messes pour délivrer des âmes en purgatoire, ni des églises où ils puissent présenter des béquilles et des ex-voto pour des membres guéris par la vertu d'une seule parole. Je ne suis pas familiarisé avec les mots techniques ni initié dans les arcanes. En conséquence, je puis me tromper dans l'expression. Mais il est évident que des hommes qui ne veulent pas se conformer à la loi de la raison et gagner leur subsistance par des moyens honnêtes et par degrés sont trop heureux de faire connaissance avec des esprits si obligeants. Nous ne pouvons pas cependant leur supposer un grand crédit ou une grande bonté, autrement ils auraient choisi de plus nobles instruments pour soumettre les amis bienfaisants de l'homme. Mais n'est-ce pas une sorte de blasphème que de prétendre à de pareils pouvoirs? D'après la marche générale de la Providence, il est évident aux yeux de la droite raison que certains vices produisent certains effets. Et qui peut insulter à la sagesse divine au point de supposer qu'elle permette un miracle pour troubler ses lois générales et rendre la santé des hommes vicieux et intempérés uniquement afin de les mettre en état de suivre impunément leur train de vie? Soyez saints et ne péchez plus, dit Jésus. Et de plus grands miracles peuvent-ils être opérés par des hommes qui ne marchent pas sur les traces de celui qui guérissait le corps pour atteindre jusqu'à l'âme? Nommer le Christ, après avoir parlé de ces vils imposteurs, pourra choquer quelques-uns de mes lecteurs. Je respecte leur indignation, mais qu'ils n'oublient pas que les sectateurs de ces illusions grossières portent le nom de chrétiens et font profession d'être les disciples de celui qui a dit « Aux œuvres nous reconnaîtrons les enfants de Dieu et nous les discernerons avec les esclaves du péché. » J'avoue qu'il est plus aisé de toucher le corps d'un saint ou d'être magnétisé que de mettre un frein à nos désirs ou de maîtriser nos passions. Mais ce n'est que par ces moyens qu'on peut recouvrer la santé du corps ou de l'âme, où nous faisons du juge suprême un être partial et vindicatif. Est-il un homme qu'il puisse changer ou punir, par caprice ou par ressentiment, lui, le Père commun, qui ne blesse que pour guérir, dit la raison elle-même? N'est-il pas évident que les suites de nos excès sont destinées à nous montrer quelle est la nature du vice? Afin qu'apprenant ainsi à distinguer le bien du mal, par notre propre expérience, nous puissions aimer l'un et haïr l'autre à proportion du degré de sagesse où nous sommes arrivés. Le poison renferme l'antidote, et il nous faut réformer nos mauvaises habitudes et cesser le péché contre nos propres corps, suivant le langage énergique de l'Écriture, où une mort prématurée, juste punition du péché, coupe la trame d'une vie coupable. Ici, une barrière redoutable arrête nos recherches. Mais pourquoi dissimulerais-je mes sentiments? Après une profonde méditation sur les attributs de Dieu, je crois que ces châtiments, de quelque nature qu'ils soient, comme les angoisses des maladies, n'ont d'autre but que de mettre dans tout son jour la malignité du vice, et cela dans la vue de nous amener à récipiscence. Punir sans autre intention que de punir paraît si contraire à ce que les ouvrages de la création et notre propre raison nous apprennent de la nature de Dieu, que je croirais plutôt à l'indifférence absolue de la divinité sur la conduite des hommes qu'à des punitions infligées sans avoir pour motif le projet bienfaisant de nous corriger. La seule supposition qu'un être tout-puissant, d'une sagesse infinie, aussi bon que grand, forme une créature douée de prévoyance pour qu'au bout de 50 ou 60 ans d'une existence orageuse, elle soit plongée dans un abîme de maux qui n'auront jamais de fin, c'est un horrible blasphème. Je sais qu'un grand nombre de dévots se piquent de se soumettre aveuglément à la volonté de Dieu, comme à un sceptre, à une verge arbitraire, par le même principe que les Indiens honorent le diable. En d'autres mots, comme font les hommes dans les intérêts ordinaires de la vie. Ils rendent des hommages au pouvoir et se courbent sous le pied qui peut les écraser. Au contraire, la religion raisonnable est une soumission à la volonté d'un être, d'une sagesse si parfaite que tout ce qu'il veut doit être dirigé par des motifs déterminants, c'est-à-dire souverainement raisonnables. Par conséquent, si nous respectons Dieu, pouvons-nous ajouter quelquefois à ces mystérieuses insinuations qui insultent à ses lois? Pouvons-nous croire qu'il veuille faire un miracle pour autoriser la confusion et sanctionner une erreur? Cependant, il nous faut ou adopter ces conséquences impies, ou traiter avec mépris toute promesse de rétablir la santé dans un corps malade par des moyens surnaturels, ou de prédire les événements que Dieu seul peut prévoir. Section 2. Un autre exemple de cette faiblesse de caractère trop ordinaire chez les femmes est le résultat d'une éducation isolée, est cet esprit romanesque que l'on a très bien désigné par le mot sentimental. Des femmes que l'ignorance rend esclaves de leurs sensations et qui ont appris à ne mettre leur bonheur que dans l'amour raffinent sur les émotions des sens et adoptent sur cette passion des notions métaphysiques qui les mènent à négliger honteusement les devoirs ordinaires de la vie. Et il n'arrive que trop souvent qu'au milieu de ces sublimes raffinements, elles finissent par se précipiter dans le vice. Ce sont ces femmes qui s'amusent des rêveries de ces absurdes romanciers, lesquelles, n'ayant aucune connaissance du cœur humain, réchauffent des contes surannés et décrivent des scènes voluptueuses, déguisées en jargon sentimental, jargon qui tend également à corrompre le goût et à éloigner le cœur des devoirs journaliers. Je ne parle pas de l'intelligence, parce que, n'ayant jamais été exercée, son énergie reste assoupie, inactive, comme les particules insensibles de feu qui sont supposées répandues dans l'universalité de la matière. Il n'est pas étonnant, en effet, que des femmes à qui l'on refuse tous les droits politiques et à qui on ne laisse pas même, comme épouse, une existence civile, excepté dans les cas criminels, détournent leur attention des intérêts de toute la communauté à celle de quelques fractions, quoique les devoirs privés des membres de la société doivent être bien imparfaitement remplis lorsqu'ils ne correspondent pas avec le bien général. La grande affaire des femmes est de plaire, et comme l'oppression politique et civile les empêche d'entrer dans les plus grands intérêts, des sentiments deviennent pour elles des événements, et la réflexion approfondie ce qu'elles devraient et ce qu'elles sauraient effacer si l'on eût permis à l'esprit de prendre un plus grand essor. Mais bornées à des occupations futiles, elles prennent naturellement les opinions que peut inspirer une sorte de lecture dont le but est d'intéresser un esprit innocent et frivole. Incapable de saisir rien de grand, est-il surprenant qu'elles trouvent la lecture de l'histoire une tâche si aride et les recherches qui sont purement du ressort de l'esprit d'un ennui insupportable et presque inintelligible? C'est ainsi que pour leur amusement, elles dépendent de ces insipides écrivains de nouvelles. Cependant, quand je m'élève contre les romans, j'entends ceux qui contrastent avec les ouvrages qui exercent l'esprit et règlent l'imagination. J'aimerais encore mieux laisser carte blanche pour les lectures parce que l'esprit peut recevoir quelques développements et acquérir quelques degrés de force par un léger effort de ses facultés pensantes. D'ailleurs, les productions qui ne s'adressent qu'à l'imagination élève le lecteur un peu au-dessus de ces satisfactions grossières des sens qui n'ont pas reçu de l'âme au moins quelque ombre de délicatesse. Cette observation est le résultat de l'expérience, car j'ai connu plusieurs femmes de distinction, et une en particulier qui était une très bonne femme, du moins autant qu'on peut l'être avec un esprit aussi borné, qui veillait avec soin à ce que ses trois filles ne lussent jamais de roman. Comme elle avait une grande fortune, elle leur avait donné beaucoup de maîtres pour les accompagner et une espèce de gouvernante pour surveiller tous leurs pas. Ces maîtres leur apprenaient à nommer en français et en italien une table, une chaise. Mais comme le peu de livres laissés entre leurs mains était beaucoup au-dessus de leur capacité, ou des livres de dévotion, elles n'acquéraient ni idées ni sentiments. Et lorsqu'elles n'étaient pas forcées de répéter des mots, elles passaient leur temps à leur toilette ou à se quereller entre elles, ou à s'entretenir à la dérobée avec leur femme de chambre, jusqu'à ce qu'on les eût fait paraître en compagnie pour les marier. Cependant, leur mère, qui se trouvait veuve, était fort occupée à entretenir ces liaisons. C'était le mot qu'elle donnait à de nombreuses connaissances, de peur que ses filles ne fussent pas introduites convenablement dans le grand monde. Et ces jeunes personnes, avec des esprits fort communs, dans toute la force du terme, et des caractères gâtés, entraient dans la vie, bouffies de leur importance, et laissaient tomber des regards de mépris sur celles qui ne pouvaient rivaliser avec elles en luxe et en appareil. Par rapport à l'amour, la nature ou leur bonne avait pris soin de leur apprendre le sens physique du mot, comme elles avaient peu de sujets de conversation, et encore moins de raffinement dans les sentiments, en parlant de mariage, elles exprimaient leur désir avec assez peu de délicatesse lorsqu'elles se voyaient en liberté. Or, je le demande, quel tort eût fait à ces jeunes personnes la lecture des romans? J'avais oublié une nuance du caractère de l'une des trois sœurs. Elle affectait une simplicité voisine de la sottise et, avec un sourire, se permettait les remarques et les questions les plus immodestes dont elle avait parfaitement appris le sens pendant qu'elle était séquestrée du monde. Elle tremblait de parler en présence de sa mère qui menait ses filles la verge haute. Elles étaient toutes élevées, comme cette dame s'en vantait elle-même, de la manière la plus exemplaire, et lisaient leur Bible et leurs psaumes avant le déjeuner, sans jamais ouvrir un roman. C'est un exemple choisi entre mille, mais je me rappelle un grand nombre d'autres femmes qui, faute d'avoir été conduites par degré à des lectures convenables, ou d'avoir eu la liberté de choisir, ont en effet été de grands enfants, ou ont acquis, à force de fréquenter le monde, un peu de ce qu'on appelle sens commun, c'est-à-dire une manière distincte de voir les événements ordinaires, chacun pris à part. Mais ce qui mérite le nom d'intelligence la faculté d'acquérir des idées générales, ou abstraites, ou intermédiaires, il n'en était nullement question. Leurs esprits étaient indolents, et quand ils n'étaient pas excités par des objets sensibles et des occupations du même genre, elles étaient assoupies, allaient dormir, ou ne se réveillaient que pour crier. Lors donc que j'engage mon sexe à ne pas lire ces ridicules ouvrages, c'est pour les amener à lire quelque chose de meilleur. Car je suis du sentiment d'un homme judicieux qui, ayant sous sa direction une fille et une nièce, suivait avec chacune un plan tout différent. Avant que sa nièce, qui avait de rares dispositions, eût été confiée à ses soins, on lui avait permis de tout lire indistinctement. Il s'efforça de l'amener à l'histoire et aux essais de morale. Mais pour sa fille, qu'une mère trop faible avait gâtée et qui, conséquemment, avait de l'aversion pour tout ce qui ressemblait à l'application, il lui permettait de lire des romans. Et pour justifier sa conduite, il disait que si elle trouvait jamais du goût à les lire, il aurait du moins quelques fonds sur lesquels il pourrait travailler et que des opinions erronées valaient mieux que point du tout. En effet, l'esprit des femmes a été si fort négligé que pour beaucoup c'est une nécessité d'aller chercher des connaissances dans ces sources fangeuses jusqu'à ce que ces lectures mêmes apprennent aux femmes qui ont des talents supérieurs à les mépriser. Le meilleur moyen, je crois, de corriger le goût des romans est de les tourner en ridicule, non indistinctement, car ce serait manquer le but. Mais si une personne judicieuse, avec quelque talent pour la plaisanterie, voulait prendre la peine d'en lire quelques-uns à une jeune personne, et de faire sentir par des intonations et des comparaisons convenables avec les incidents pathétiques et les caractères héroïques de l'histoire, quelle sotte et ridicule charge de la nature humaine les romans leur présentent, il ne serait pas difficile de substituer des opinions justes aux sentiments romanesques. Il est un point cependant où la majorité des deux sexes s'accordent et montrent le même défaut de goût et de modestie. Des femmes ignorantes, forcées d'être chastes pour conserver leur réputation, laissent leur imagination s'égarer sur les scènes peu naturelles et voluptueuses, tracées par les romanciers du jour, rejetant comme insipide la dignité mâle et les grâces pudiques de l'histoire, pendant que les hommes portent le même goût vicieux dans la vie et fuient les charmes purs de la vertu et la gravité respectable du bon sens pour chercher de vains amusements dans les caprices d'une imagination déréglée. D'ailleurs, la lecture des romans fait contracter aux femmes, et surtout aux femmes du grand monde, l'habitude de se servir d'expressions fortes et de superlatifs dans la conversation. Et quoique la vie dissipée et artificielle qu'elles mènent les empêche de nourrir aucune passion profonde et légitime, le langage de la passion s'échappe en tons affectés de leur langue légère, et chaque bagatelle produit ces explosions phosphoriques qui n'imitent la flamme que dans l'obscurité de la nuit. Section 3. L'ignorance et la ruse mal entendues que la nature donne pour arme aux têtes faibles, comme un moyen de conservation, rendent les femmes très avides de parure et produisent toute la vanité qui doit être le résultat naturel d'un tel penchant à l'exclusion de l'émulation et de la malignité. Je pense avec Rousseau que le physique de l'art de plaire consiste dans les ornements, et c'est précisément pour cette raison que je voudrais mettre les jeunes personnes en garde contre cette folie contagieuse de parure, si commune à notre faible sexe, afin qu'ils ne s'en tiennent pas au physique de cet art. Car c'est se tromper grossièrement que de s'imaginer pouvoir plaire longtemps sans le secours de l'esprit, ou en d'autres termes sans le moral de l'art de plaire. Mais cet art moral, si ce n'est pas une profanation que de se servir ici du mot d'art, quand on l'entend de la grâce qui est l'effet de la vertu et non le motif de l'action, ne peut jamais se rencontrer avec l'ignorance. Le badinage de l'innocence, si agréable aux yeux des libertins raffinés des deux sexes, est bien différent dans son essence de cette grâce d'une nature supérieure. Une forte inclination pour les ornements extérieurs a lieu chez les sauvages et dans l'état de barbarie, où les hommes seuls se partent à l'exclusion des femmes. Car partout où les femmes sont au niveau des hommes, la société a fait au moins un pas vers la civilisation. D'après cela, le goût de la parure qu'on a regardé comme un penchant particulier au sexe est, selon moi, naturel à l'humanité. Mais pour m'exprimer avec plus de précision, quand la nature n'a pas assez d'ouverture pour prendre plaisir à la réflexion, on mettra tous ses soins à orner son corps et chacun aura l'ambition de le tatouer ou de le peindre. Cette première inclination est portée si loin que même le joug infernal de l'esclavage ne peut déraciner ce désir sauvage d'exciter l'admiration que les héros nègres héritent de leurs parents. Car le modique salaire qu'un esclave gagne à la sueur de son front est ordinairement dépensé en misérables parures. J'ai rarement connu un bon domestique, homme ou femme, qui n'en fût pas singulièrement amoureux. Leurs habits faisaient toute leur richesse, et je conclus par analogie que le goût de la parure, si extravagant dans les femmes, provient de la même cause, du défaut de culture de l'esprit. Quand les hommes se rencontrent, ils s'entretiennent d'affaires, de littérature ou de politique. Mais, dit Swift, comment se fait-il que les femmes portent naturellement la main à leur robe et à leur manchette ? Rien de plus naturel. C'est qu'elles n'ont ni affaires qui les intéressent, ni goût pour les lettres. La politique leur paraît sèche et aride, parce qu'elles ne s'élèvent point jusqu'à l'amour de l'humanité, en appliquant leur pensée aux grands objets qui agrandissent l'espèce humaine et dont résulte le bonheur général. D'ailleurs, différentes sont les routes du pouvoir ou de la renommée, où les hommes s'engagent par choix ou par hasard, et quoi qu'ils luttent l'un contre l'autre. Car il est bien rare que des hommes de la même profession soient amis. Il y a un bien plus grand nombre de leurs semblables avec lesquels ils ne s'entrechoquent jamais. Les femmes sont dans une situation toute différente les unes à l'égard des autres, car elles sont toutes rivales. Avant le mariage, leur grande affaire c'est de plaire aux hommes, et depuis, à quelques exceptions près, elles suivent les mêmes errements avec toute la persévérance et toute l'opiniâtreté de l'instinct. Les femmes les plus vertueuses n'oublient pas leur sexe en compagnie et cherchent sans cesse les moyens de se rendre agréables. Une belle femme et un bel esprit paraissent également jaloux d'attirer l'attention sur eux, et l'animosité des esprits contemporains a passé en proverbe. Est-il donc surprenant que lorsque la seule ambition d'une femme est la beauté, et que l'intérêt donne une nouvelle force à la vanité, que d'éternelles rivalités en soient le résultat? C'est une espèce de course où elles se disputent toutes de prix, au lieu qu'elles s'élèveraient peut-être au-dessus des vertus des mortels si elles ne se voyaient pas entre elles avec l'œil du soupçon et même de l'envie. Un excessif amour de parure, de plaisir et de domination sont les passions des sauvages. Ces passions qui occupent ces êtres non civilisés, qui n'ont point encore étendu le domaine de l'esprit, et qui n'ont pas même appris à penser avec l'énergie nécessaire pour lier cette série d'abstractions qui produit les principes. Or, les femmes, d'après leur éducation, d'après l'état actuel de notre civilisation, sont dans le même cas. C'est, je crois, ce que personne ne peut révoquer en doute. Les tourner en ridicule, ou attaquer avec les armes de la satire les sottises d'un être qu'on ne laisse jamais agir librement et d'après les lumières de sa raison, c'est donc une conduite aussi absurde que cruelle. Car il est très naturel que ceux qui sont obligés d'obéir en aveugle à l'autorité cherchent dans la ruse les moyens de l'éluder. Qu'on me prouve qu'elles doivent à l'homme une obéissance implicite, et je conviendrai que le devoir des femmes est de cultiver le goût de la parure dans la vue de plaire, et le penchant à la ruse pour sa propre conservation. Mais les vertus, qui n'ont d'autre base que l'ignorance, doivent toujours être flottantes. L'édifice bâti sur le sable ne peut résister à la tempête. La conséquence est toute simple. Si l'autorité seule rend les femmes vertueuses, ce qui est une contradiction dans les termes, qu'on les enferme dans des sérails défendus par de hautes murailles et que l'œil de la jalousie veille sans cesse sur elles. Ne craignez pas que le fer les affranchisse de cette odieuse captivité. Car des âmes capables de supporter de pareils traitements sont composées d'éléments sans vigueur et n'ont de vie que ce qu'il en faut pour mettre le corps en mouvement. C'est une matière trop molle pour conserver une empreinte durable et que l'on ne peut distinguer que par les noms de brune, de blonde ou de belle. Par conséquent, les plus cruelles blessures doivent bientôt se cicatriser et elles se contenteront de peupler le monde et de se parer pour plaire aux hommes, seule destination que les femmes aient été créées pour remplir, du moins si l'on en croit certains écrivains célèbres. Section 4. Les femmes sont supposées avoir plus de sensibilité et même d'humanité que les hommes. On en donne pour preuve leurs forts attachements et leurs émotions passagères de compassion. Mais l'affection de l'ignorance n'a presque rien de noble, et dégénère promptement en égoïsme, comme l'affection des enfants et des animaux. J'ai connu beaucoup de femmes dont toute la sensibilité était restreinte à leur mari. Quant à leur humanité, elle était très faible, ou plutôt ce n'était qu'une compassion passagère. L'humanité ne consiste pas dans une oreille susceptible, dit un orateur distingué. Elle appartient à l'âme aussi bien qu'au nerf. Mais cette espèce d'affection exclusive, quoiqu'elle dégrade l'individu, ne doit pas être présentée comme une preuve de l'infériorité de leur sexe, parce que c'est la conséquence naturelle de fûts bornés. Car les femmes, même d'un sens supérieur, en tournant leur attention vers des occupations futiles et des plans particuliers, s'élèvent rarement jusqu'à l'héroïsme, excepté lorsqu'elles sont aiguillonnées par l'amour. Et l'amour, lorsqu'il est passion héroïque comme le génie, ne paraît qu'une fois dans un siècle. Aussi je suis de l'avis du moraliste qui assure que les femmes ont rarement autant de générosité que les hommes et que leurs affections étroites, auxquelles la justice et l'humanité sont souvent sacrifiées, donnent au sexe une infériorité apparente, surtout en ce qu'elles sont ordinairement inspirées par les hommes. Mais je soutiens que le cœur doit se dilater à mesure que l'intelligence se fortifie, ce qui arriverait si les femmes n'étaient rabaissées dès le berceau. Je sais qu'un peu de sensibilité et beaucoup de faiblesse doivent produire un fort attachement sexuel, et que la raison peut cimenter l'amitié. En conséquence, j'avoue qu'on doit trouver plus d'amitié dans les hommes que dans les femmes, que les hommes ont un sentiment de justice plus éclairé. Les affections exclusives des femmes ressemblent à l'injuste amour de Caton pour sa patrie. Il voulait renverser Carthage, non pour sauver Rome, mais pour en augmenter la gloire. Et en général, c'est à de pareils principes que l'humanité est sacrifiée. Car les véritables devoirs servent d'appui les uns aux autres. Enfin, comment les femmes peuvent-elles être justes et généreuses tant qu'elles sont les esclaves de l'injustice? Section 5. Si l'on a eu raison de regarder comme la destination particulière des femmes la gestation des enfants, c'est-à-dire le fondement de la santé de l'âme et du corps dans la génération qui doit suivre, l'ignorance qui les met hors d'état de remplir à cet égard les vues de la nature doit être contraire à l'ordre des choses. Je soutiens donc que l'esprit des femmes est susceptible de culture et qu'il doit acquérir des connaissances, ou qu'autrement, il est impossible qu'elles deviennent jamais de bonnes mères. Beaucoup d'hommes qui apportent beaucoup de soins à l'éducation de leurs chevaux et veillent même sur les détails de l'écurie, par un étrange défaut de jugement et de sensibilité, se croiraient avilis en s'occupant le moins du monde de leurs enfants en bas âge, et cependant, combien d'enfants sont absolument assassinés par l'ignorance des femmes. Lors même qu'ils ont le bonheur d'échapper, et qu'ils ne périssent ni par une négligence déplacée, ni par une aveugle tendresse, combien peu sont soignés comme ils devraient l'être par rapport à l'âme. Ainsi, pour plier le caractère qu'on a laissé devenir vicieux dans la maison paternelle, on envoie un enfant à l'école, et la méthode qu'on y emploie, méthode nécessaire pour tenir plusieurs enfants ensemble, répand les germes de presque tous les vices dans un terrain déjà préparé. J'ai quelquefois comparé les efforts de ces pauvres enfants, qui n'auraient jamais senti la contrainte, s'ils eussent toujours été tenus d'une manière égale, au combat d'une jument pleine de feu que l'écuyer poussait sur un sable mobile et dont les pieds s'y enfonçaient plus profondément chaque fois qu'elle s'efforçait de jeter bas son cavalier, jusqu'à ce qu'enfin elle cède et se soumette à regret. J'ai toujours trouvé les chevaux, animaux auxquels je suis très attaché, fort traitables quand on les traitait avec humanité et fermeté, de sorte que je doute si les moyens violents auxquels on a recours pour les dompter ne leur font pas un tort essentiel. Je suis cependant persuadé qu'il n'est pas possible d'apprivoiser ainsi un enfant par force lorsqu'on a eu l'imprudence de le laisser devenir indocile et sauvage. Car chaque atteinte portée à la justice dans l'éducation des enfants affaiblit leur raison. Qu'on ne s'y méprenne pas. C'est de très bonne heure qu'ils prennent un caractère, et la base du caractère moral, d'après l'expérience, est fixée communément avant l'âge de 7 ans, espace durant lequel les femmes seules sont chargées du soin des enfants. Après cette époque, il n'arrive que trop souvent que l'éducation soit en grande partie occupée à corriger les défauts qu'ils n'auraient jamais contractés si leur mère avait été plus éclairée, et cette correction est toujours imparfaite si elle est faite trop rapidement. Je ne dois pas ici passer sous silence un exemple frappant de la sottise des femmes. C'est la manière dont elles traitent leurs domestiques en présence de leurs enfants, ce qui les accoutume à croire qu'ils sont faits pour les attendre et supporter leurs humeurs. Un enfant devrait être habitué à regarder comme une faveur le secours qu'il reçoit d'un homme ou d'une femme. Leur mère devrait leur donner la première leçon d'indépendance en leur apprenant à ne jamais demander l'assistance d'un autre, demande qui est une insulte faite à l'humanité quand l'enfant est en santé. Et au lieu de contracter l'habitude de prendre des airs d'importance, le sentiment de leur propre faiblesse leur ferait reconnaître dès le bas âge l'égalité naturelle de l'homme. Et pourtant, combien de fois n'ai-je pas entendu avec indignation appeler des domestiques d'un ton impérieux pour coucher les enfants et les renvoyer à plusieurs reprises parce que le petit monsieur ou la petite demoiselle se pendait au col de sa maman pour rester un peu plus longtemps. Et pendant que les esclaves attendaient l'ordre d'accompagner la petite idole, celle-ci se livrait à tous les caprices choquants qui caractérisent un enfant gâté. Il est donc deux excès où donne la plus grande partie des mères, ou bien elles se reposent entièrement sur leurs domestiques du soin de leurs enfants, ou, parce qu'ils sont leurs enfants, ils les traitent comme des demi-dieux. Quoique j'ai toujours observé qu'il était bien rare que les femmes, qui idolâtraient ainsi leurs enfants, témoignassent l'humanité la plus commune à leurs domestiques, ou sentissent la moindre tendresse pour d'autres que pour les leurs. Ce sont ces affections exclusives et cette manière personnelle de voir les choses, résultat de l'ignorance, qui empêchent les femmes de faire un pas vers le perfectionnement de leur sexe, et qui sont cause qu'en consacrant leur vie à leurs enfants, elles ne font qu'affaiblir leur corps et gâter leur caractère, de sorte qu'elles rendent inutiles tous les plans d'éducation que pourrait adopter un père plus raisonnable. Car faute du concours de la mère, le père qui a tout l'odieux de la sévérité sera toujours regardé comme un tyran. En remplissant les devoirs d'une mère, une femme bien constituée peut encore se tenir très propre et aider à l'entretien de sa famille s'il est nécessaire. Ou, par des lectures et par des conversations avec les deux sexes indistinctement, perfectionner son esprit, car la nature a si sagement ordonné les choses que si les femmes nourrissaient, elles conserveraient leur santé et il y aurait un tel intervalle entre la naissance et chaque enfant qu'il serait rare de voir des maisons remplies de marmots. Si elles suivaient un plan de conduite, et si elles ne perdaient pas leur temps à suivre tous les caprices de la mode, le soin de leur ménage et de leurs enfants ne les empêcherait pas de cultiver les lettres et de s'attacher aux sciences avec cet œil ferme qui fortifie l'âme, ou enfin de pratiquer un des beaux-arts qui forment et exercent le goût. Mais les visites faites uniquement dans l'intention de montrer une parure d'un nouveau goût, les cartes, les bals, sans parler des occupations oiseuses de chaque matinée, détournent les femmes de leurs devoirs pour les rendre insignifiantes et leur inspirent le désir de plaire, suivant l'acceptation présente du mot, à tous les hommes excepté à leur mari. Quand on ne peut dire qu'un cercle de plaisir dans lequel les affections n'ont pas d'objet contribue à développer l'entendement, quoique cela s'appelle à tort voir le monde, et cependant le cœur se refroidit et s'écarte du devoir par ce commerce insensé dont l'habitude fait une nécessité lors même qu'il n'est plus un plaisir. Mais tant qu'il n'y aura pas plus d'égalité dans la société, tant que les rangs ne seront pas confondus et que les femmes ne seront pas libres, on ne verra pas ce bonheur domestique plein de dignité dont la simple grandeur ne peut avoir de charme pour les âmes ignorantes ou vicieuses, et la tâche importante de l'éducation ne sera pas calculée sur des bases convenables tant que la personne des femmes sera préférée à leur esprit. Car il serait aussi sage d'attendre que l'ivraie produise du grain ou que la figue croisse sur les buissons que de croire qu'une femme sotte et ignorante pourra devenir une bonne mère. Section 6. Avant de présenter les réflexions par lesquelles je veux conclure, il n'est pas nécessaire d'avertir le lecteur intelligent que la discussion de ce sujet consiste à établir un petit nombre de principes simples et à élaguer les ronds, ce qui empêche de les apercevoir. Mais comme les lecteurs n'ont pas tous la même sagacité, qu'il me soit permis d'ajouter quelques remarques explicatives pour convaincre que cette raison paresseuse qui prend des opinions sur la foi d'autrui et les soutient ensuite avec obstination, pour s'épargner le travail de pensée. Les moralistes conviennent unanimement qu'à moins que la vertu ne soit nourrie par la liberté, elle n'atteindra jamais le degré de force dont elle est susceptible. Ce qu'ils disent de l'homme, je l'étends à toute l'humanité. J'insiste pour que, dans tous les cas, la morale puisse avoir pour base des principes immuables, et je soutiens qu'on ne peut donner le nom de raisonnable ou de vertueux à l'être qui obéit à toute autre autorité qu'à celle de la raison. Pour rendre les femmes des membres vraiment utiles à la société, je prétends d'abord qu'on devrait, en cultivant leur entendement sur un plan plus vaste, les mener à un amour raisonnable de leur pays, à un amour fondé sur la connaissance, parce que tout le monde sait que nous nous intéressons peu à ce que nous ne comprenons pas. Et pour donner à cette connaissance générale l'importance qu'elle mérite, je me suis efforcé de prouver que les devoirs particuliers ne sont jamais bien remplis tant que le cœur n'est pas développé par l'esprit, et que les vertus publiques ne sont qu'un composé de vertus privées. Mais les distinctions établies dans la société minent les unes et les autres en battant l'or solide de la vertu jusqu'à ce qu'il devienne le clinquant qui couvre la difformité du vice, car ce sera l'opulence et non pas la vertu qui rendra un homme respectable. On cherchera l'opulence avant la vertu, et tant que la personne des femmes sera caressée, même lorsqu'un sourire enfantin accuse le vide de l'esprit, l'esprit restera en friche. Cependant, la vraie volupté peut avoir sa source dans l'esprit, car qui peut égaler les sensations produites par une affection mutuelle, soutenue par une estime réciproque? Que sont les caresses froides ou brûlantes du désir, sinon le péché embrassant la mort, comparé avec les transports et les épanchements modestes d'un cœur pur et d'une imagination exaltée? Oui, que le libertin qui méprise l'esprit dans une femme apprenne que l'esprit seul donne de la vie à cette affection pleine d'enthousiasme, seule source des transports passagers, et que, sans la vertu, un attachement fondé sur la seule différence des sexes doit expirer comme une lumière meurt dans le flambeau en laissant après elle un insupportable dégoût. Pour le prouver, il me suffit d'observer que les hommes qui ont passé une grande partie de leur vie avec les femmes et qui ont été le plus altérés des plaisirs que leur commerce présente ont de notre sexe la plus pauvre idée. Ô vertu, source de joie épurée, si les hommes insensés voulaient te bannir de la terre pour donner un libre cours à leurs appétits déréglés, les vrais amis de la volupté escaladeraient le ciel pour t'inviter à revenir parmi les humains et à donner un attrait au plaisir. Que pour le présent, les femmes soient sottes et vicieuses, grâce à l'ignorance, c'est, je crois, ce dont on ne pourra disconvenir. Et de cette observation, il résulte, au moins avec une apparence de probabilité, qu'on peut se promettre d'une révolution dans les mœurs des femmes les effets les plus salutaires pour le perfectionnement de l'humanité. Car le mariage étant regardé comme la source de ces affections aimantes qui tirent l'homme de l'état de brute, le commerce corrupteur que l'or, l'oisiveté, la sottise établit entre les deux sexes est plus généralement funeste à la morale que tous les autres vices de l'humanité réunis. Les devoirs les plus sacrés sont sacrifiés à l'adultère parce que les hommes, par des liaisons intimes avec toutes sortes de femmes, s'accoutument à regarder l'amour comme une satisfaction personnelle et à le séparer non seulement de l'estime, mais même de l'affection fondée sur l'habitude qui y mêle un peu d'humanité. La justice et l'amitié y sont également offensées, et tout est altéré jusqu'à cette pureté de goût dont l'effet naturel serait de conduire l'homme à préférer les témoignages d'innocents de l'amour à des airs affectés. Mais cette noble simplicité, qui ose paraître sans ornement, a peu d'attrait pour le libertin, quoique ce soit le charme qui, en resserrant le lien conjugal, assure aux gages d'une passion plus brûlante l'affection de leurs parents. Car leur éducation ne peut être bonne si l'amitié n'unit pas ceux qui leur ont donné le jour. La vertu fuit d'une maison divisée avec elle-même, et toute une légion infernale y a bientôt fixé sa résidence. L'affection des maris et des femmes ne peut être pure tant qu'ils ont si peu de sentiments en commun et quand la confiance règne si peu au sein de la maison, ce qui doit être quand les objets qui les occupent sont si différents. Cette intimité, source de la tendresse, ne peut subsister entre les vicieux. En soutenant donc que la distinction sexuelle sur laquelle quelques hommes ont tant insisté est purement arbitraire, je me suis attaché à une observation que plusieurs hommes éclairés avec qui j'en ai parlé m'ont avoué être bien fondée. C'est tout simplement que le peu de chasteté qui se trouve parmi les hommes, et conséquemment le mépris de la modestie, tend à dégrader les deux sexes, et de plus que la modestie des femmes, caractérisée comme appartenant à leur sexe, doit souvent n'être que le voile artificieux du vice contraire, au lieu d'être la réflexion naturelle de la pureté, jusqu'à ce que la modestie soit universellement respectée. Je crois fermement que c'est de la tyrannie de l'homme que provient le plus grand nombre des sottises des femmes, et la ruse qui, je l'avoue, fait à présent une partie de leur caractère. Je me suis efforcé de prouver à plusieurs reprises quel était l'effet de l'oppression. Par exemple, les non-conformistes, c'est-à-dire les Anglais n'adhérant pas à l'Église anglicane, ne sont-ils pas une classe qu'on a grande raison de regarder comme rusée? Ce fait ne peut-il pas me servir de preuve que lorsqu'un autre pouvoir que la raison courbe l'esprit humain est fait pour la liberté, il le force à la dissimulation et que l'effet naturel est de lui faire déployer toutes les ressources de l'art? Cette grande attention au décorum et tout ce fracas puéril pour des bagatelles et des solennités que la caricature de Butler dans son poème Hudibras rappelle à notre imagination, tous ces usages auxquels ils attachent tant d'importance ont renfermé leur corps aussi bien que leur esprit dans le moule de leur première petitesse. Je parle en général, car je sais bien combien d'hommes faits pour être les ornements de la nature humaine ont été enrôlés parmi les sectaires. Mais je soutiens que cette même prévention que les femmes ont pour leur maison est ce qui anime les non-conformistes, quelque respectables qu'ils soient à d'autres égards, et que la même timide prudence ou la même opiniâtreté nuit souvent aux efforts des uns et des autres. C'est l'oppression qui a établi cette parfaite ressemblance entre les traits de leur caractère et celui de la moitié opprimée de l'humanité. N'est-il pas notoire, en effet, que les non-conformistes, comme les femmes, aiment à délibérer ensemble, à demander l'avis l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à leur petite fin par une complication de petits moyens. On remarque encore parmi les uns et les autres la même attention à conserver leur réputation, attention produite par une cause toute semblable. En réclamant les droits que les femmes peuvent revendiquer en commun avec les hommes, je n'ai pas prétendu atténuer leurs défauts, mais je me suis attaché à prouver qu'ils étaient une conséquence naturelle de leur éducation et de leur manière d'être dans la société. Si cela est, on peut raisonnablement supposer qu'ils changeront de caractère et corrigeront leurs vices et leurs sottises lorsqu'on leur rendra la liberté physique, morale et civile. Que les femmes aient part aux droits des hommes, et elles imiteront leurs vertus, car elles deviendront plus parfaites en devenant plus libres, ou justifieront l'autorité qui enchaîne ces êtres faibles à leurs devoirs. Dans le dernier cas, il est expédient d'ouvrir une branche du commerce avec la Russie pour se pourvoir de fouet, présent qu'un père ne manquerait jamais de faire à son gendre le jour de ses noces, afin qu'un mari pût tenir sa famille en ordre par le même moyen et régner sans violer la justice, seul maître de sa maison, parce que de tous ceux qui l'habitent, il est le seul être qui soit doué de raison. Le Créateur de l'univers ayant donné à l'homme, par un souffle de sa bouche, la souveraineté de la terre, l'inaltérable souveraineté dont un pareil sceptre sera l'attribut. Dans cette position, il faut convenir que les femmes n'ont à réclamer aucun droit primitif et inhérent à leur nature. Et par la même raison, adieu les devoirs, car les droits et les devoirs sont inséparables. Soyez donc justes, hommes qui vous piquez de lumière, et ne censurez pas plus sévèrement les fautes commises par les femmes que les allures vicieuses du cheval ou de la bête de somme à la subsistance desquelles il vous faut pourvoir. Accordez les privilèges de l'ignorance à ceux à qui vous refusez les droits de la raison, ou vous serez pire que les maîtres égyptiens, en exigeant la vertu où la nature n'a pas donné l'intelligence. Fin.